Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, la France est-elle encore une grande nation sportive ? Deux pistes, deux sportifs, deux manières de voir. Il y a d'un côté la légende jamaïcaine Bolt sur le 200 mètres d'hier soir qui, du haut de sa 8e médaille d'or, déclare très simplement qu'il veut être l'un des plus grands entre Mohamed Ali et Pelé. Et il y a aujourd'hui le français Johan Diniz qui, après avoir disputé le 50 km marche jusqu'au bout et non sans difficulté, ne se verra donc pas monter sur le podium ce soir, lui qui, après un abandon à Londres, une disqualification à Pékin, s'était pourtant dit timidement que cette fois c'était la bonne. J'ai gommé le passé. Je suis dans le présent. C'est une nouvelle compétition qui commence de manière sereine. Un écart qui reflète, de manière certes très artificielle, cette différence de mentalité dont parlent plusieurs entraîneurs français pour leurs sportifs. Quand en Russie ou au Japon on parlera d'effort pour atteindre la performance, un Français parlera de sacrifice, remarque l'ex-gymnaste russe Dimitri Karbanenko, passé par la France pour s'entraîner, propos rapportés dans le journal Le Monde. Une conception française du sport de haut niveau qui diffère de celle qui prédomine aux États-Unis, en Russie par exemple, où si l'on fait du sport, c'est pour devenir un champion, observe dans ce même article la patineuse Nathalie Péchala. Malgré ce constat sur une formation sportive qui pourrait sans doute être améliorée, il faut tout de même observer à quel rang se situe la France à deux jours de la cérémonie de clôture des JO, 7e au classement des médailles, 34 au total dont 8 d'or. C'est certes moins qu'à Londres et bien moins qu'à Pékin, mais la grandeur d'une nation sportive ne se décide-t-elle qu'à la seule vue du nombre de médailles ? Quelles nouvelles configurations, nouvelles données sont à prendre en compte pour mesurer le poids de la France dans une compétition aussi particulière que celle de Rio ? La France est-elle encore une grande nation sportive ? C'est notre sujet du jour. Trois invités pour en parler ce soir. Marc Lévesque, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue du sport, professeur à l'université de Staps d'Orléans, sciences et techniques des activités sportives, et vous avez notamment publié aux éditions Vuibert, psychologie de l'athlète, radiographie d'une carrière de sportif de haut niveau. En face de vous, Stéphane Mandard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde, chef du service des sports, et notre troisième invité est avec nous depuis Bordeaux en duplex. Bonsoir, c'est Marina Honta.
Bonsoir.
Vous êtes professeure à l'université de Staps de Bordeaux, chercheuse au centre Émile Durkheim, spécialiste en sociologie de l'action publique sportive. Alors, une première question. À ce stade, la France, comme je l'ai dit, est tout de même 7e au classement des médailles olympiques, avec 34 médailles et sans doute peut-être plus, on peut espérer d'ici à ce dimanche. 8 médailles d'or, 12 d'argent, 14 de bronze. On parle beaucoup de déception quand on lit les journaux, quand on écoute certains commentateurs sportifs par rapport aux prévisions qui ont été faites quant à ce nombre de médailles. Est-ce que vous, aujourd'hui, Stéphane Mandard, vous parlez de déception ?
Alors moi, je suis pas déçu parce que je suis pas supporter de l'équipe de France. Je suis journaliste. Je traite de sport, mais je suis pas supporter. Je suis pas franchouillard. On est peut-être un petit peu franchouillard en France aussi. On regarde toujours avec ce prisme-là des Français. C'est le pays de Poulidor, la France. Vous savez, on aime bien les seconds, les vice-champions. Non, il faut pas noircir le tableau. Je sais qu'on est, j'ai entendu les chiffres du tourisme qui sont catastrophiques, malgré l'euro, notamment les braderies, le contexte terroriste. La France est anxieuse, la France est une sinistrose, la France est angoissée, pas sûre d'elle. La France aime bien le French bashing, c'est pas si mal que ça. Alors oui, c'est vrai, l'objectif était de dépasser Pékin. Pékin, c'est 41 médailles. Ce soir, c'est ça, à l'heure où on se parle, il est 19h, on est à 34 médailles. Je pense qu'on va arriver, grosso modo, au niveau de, on va dépasser le niveau de Londres, parce que Londres c'était pas non plus exorbitant. Hein. C'était, je crois, j'avais pris quelques petites notes avant de préparer cette émission. 35 médailles, donc on est à une médaille en termes de total de médailles. On a un petit peu moins de médailles d'or, c'est vrai, parce que certains sportifs, certains champions n'ont pas été au rendez-vous. Je pense notamment à la natation. Hein. La natation avait rapporté 7 médailles, donc 4 en or. C'est 0 médaille en or cette année. Le cyclisme sur piste aussi, qui est traditionnellement grand pourvoyeur de médailles, a fait simplement une médaille de bronze. Donc oui, pour certains sports, c'est une déception. Après, il y a eu pas mal de
surprises.
De surprises aussi. L'équitation,
voile,
par exemple, même l'athlétisme, qui est quand même le sport olympique par excellence. C'est le meilleur bilan depuis les Jeux de Londres de 48. Hein. Attention, pas ceux d'il y a 4 ans. Vous parliez de Lemaître. Lemaître, hier, extraordinaire. il n'est que troisième, entre guillemets, hein, je mets des guillemets parce qu'on a la radio. Il n'est que troisième, pour lui, ça vaut une médaille d'or. Pensez, être sur le podium avec Usain Bolt, c'est incroyable. La lanceuse de poids, le deux disques, pardon, Mélina Robert-Pichon, depuis 48, il n'y avait pas eu de Française sur un podium. Donc, il y a des performances quand même assez extraordinaires, malgré tout.
Marc Lévesque, sur cette question, est-ce que vous êtes, vous, d'accord avec Stéphane Mandard ou plutôt avec certains commentateurs qui disent « Bon, on avait prévu plus de médailles et là, c'est quand même, ce sont quand même des jeux assez timides pour la France ?»
C'est certain que ça a démarré doucement et que c'est monté en puissance favorablement. Et finalement, on va être sur des chiffres très proches. On va être dans les mêmes eaux que lors des précédentes contributions. Moi, je voudrais dire deux choses là-dessus. D'abord, quelle est la valeur en tant qu'indicateur du nombre de médailles olympiques ? C'est un indicateur vitrine, c'est un indicateur de surface qui mérite certainement d'être interrogé par d'autres ratios, d'autres proportions et des analyses plus approfondies, notamment en termes de spécialités différentes qui émergent ou qui régressent. Enfin, voilà, faut regarder de plus près. Moi, je voudrais dire que un signe de bonne santé du sport français de haut niveau, parce qu'il n'y a pas que ça dans le sport, c'est quand même que les médailles se répartissent d'une façon relativement large sur un ensemble de disciplines très différentes. Ce qui montre quand même, probablement, n'est-ce pas, ça va du tir à l'arc au taekwondo, du judo...
Taekwondo, pas encore.
Non, pas
tir au pistolet d'ailleurs.
Le tir où on n'avait pas grand-chose avant. Enfin, il y a un éventail assez large, un spectre assez large de médaillés, même si c'est une médaille dans un sport. Et ça montre certainement que derrière cela, il y a une, je dirais, une politique sportive, une politique de soutien, de préparation, de formation de nos athlètes, qui est assez dispensée de façon équilibrée. Hein. Et qui produit des effets, alors avec quelques mouvements progressistes ou moins bons, mais enfin ça, je trouve que c'est un point de satisfaction. La deuxième chose que je voudrais dire très rapidement, c'est que le sport de haut niveau continue, parce que c'est pas un phénomène nouveau, de se mondialiser et de se globaliser. C'est-à-dire que les indicateurs de médailles, ils disent ce qu'ils peuvent dire. Ils sont très relatifs. Vous avez tous entendu ces informations qui ne sont pas secrètes. Des équipes chinoises sont entraînées par des sportifs français, par des entraîneurs français. Les entraîneurs de différentes nations sont venus en France.
La Russie, par exemple.
Et les athlètes eux-mêmes s'entraînent ensemble. Ils font beaucoup de stages et de préparations communes en étant finalement adversaires au JO. Alors tout ça, ça relativise beaucoup l'indicateur nombre de médailles, me semble-t-il.
Marina Honta, est-ce que vous êtes d'accord avec ce questionnement qu'on vient de soulever avec Marc Lévesque, est-ce que une nation, la grandeur sportive d'une nation se mesure au nombre de médailles, ou est-ce que, comme le disait Marc Lévesque, ça tient plutôt à cette politique d'encadrement, de soutien de ces sportifs?
C'est tout cela à la fois. D'abord, je voudrais dire que je partage pleinement les propos qui ont été tenus. Je rajouterai peut-être une petite chose pour vous répondre aussi. C'est que la France, Jeux Olympiques après Jeux Olympiques d'été, continue de figurer parmi les 10 premières nations, alors que la concurrence sportive internationale a, elle, profondément augmenté, s'est profondément accentuée. Ce qui peut dénoter aussi du fait que les résultats restent tout à fait honorables et que nous sommes dans une nation finalement plutôt constante en matière de résultats sportifs. Quand bien même le meilleur classement que la France a pu obtenir lors des Jeux Olympiques d'été et que l'on rappelle à l'envi pour dire que c'était le meilleur, justement, c'est lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, si ma mémoire est bonne, d'Atlanta en 1996, où elle finissait au cinquième rang des meilleures nations. Depuis lors, 20 ans après, elle est au septième rang, mais la concurrence sportive internationale, je le répète, a fortement augmenté avec l'émergence de nombreuses nations. Et ces résultats me paraissent d'autant plus honorables que le modèle français d'organisation du sport, et c'est sur quoi Marc Lévêque insistait, repose sur une conception, une vision du monde qui consiste finalement à dire que, d'accord, il faut fabriquer l'élite sportive, il faut gagner des médailles, mais pas à n'importe quel prix, pas au détriment de la formation initiale de l'athlète, de sa formation socio-professionnelle, et pas au détriment de sa santé physique et mentale.
La formation socio-professionnelle, la formation tout court de l'athlète, on va y venir au cours de cette émission, mais avant cela, je voudrais revenir sur ce que vous soulignez tous, c'est ce changement de configuration, déjà un changement de la part un changement de concurrence, hein, une mutation de la concurrence, mais aussi un changement par rapport aux sportifs français. 396 sportifs français au JO présents cette année, 228 hommes, 168 femmes, un bataillon record depuis les Jeux de Barcelone de 92. Une progression qui est due notamment à la qualification d'équipe, d'une majorité d'équipes de sport collectif. Qu'est-ce que ça dit, ça, Stéphane Mandard, de la mutation de la délégation sportive française aujourd'hui?
Bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le sport est mondialisé aujourd'hui, donc il y a de plus en plus de nations qui participent, il y a de nouvelles disciplines aussi, il y a deux nouvelles disciplines notamment qui sont le rugby à 7 et le golf qui effectue son retour. Le rugby à 7 a donc qualifié deux équipes, une équipe féminine, une équipe masculine. Exactement. Donc forcément c'est plus de concurrents. Le sport collectif français est bon. Voilà, tout à l'heure, on porte un diagnostic.
Et beaucoup plus d'équipes féminines aussi.
Des équipes féminines. On voit que les handballeuses se sont qualifiées hier pour leur première finale olympique. Les handballeurs vont essayer de les imiter. Il y a une école du handball en France. Les basketteuses sont passées assez près face aux Américaines qui sont la première puissance mondiale depuis toujours. Voilà, il y avait beaucoup de représentantes et à très haut niveau. Juste en termes de comparaison, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les nations concurrentes progressent. Nous, on se maintient entre 5, 6, 7e place. Effectivement, il y a 20 ans, en 96, la France était 5e. Et regardez l'Angleterre. L'Angleterre était 36e avec une seule médaille d'or et 15 au total. L'Angleterre, aujourd'hui, est 2e, tenez-vous bien, hein, derrière les États-Unis, devant la Chine, avec un total qui va en plus évoluer de 65 médailles, dont 29 en or. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Ils ont obtenu les Jeux Olympiques en 2016, ils les ont obtenus, je crois, en mai 2004. Ils ont essayé de mettre en place un plan de développement du sport de haut niveau, mais exclusivement du haut niveau. C'est la différence avec le modèle français. Le modèle français est global, on n'oublie pas le sport amateur. Les Anglais ont décidé de mettre le paquet uniquement sur l'élite, uniquement sur les Jeux Olympiques. À titre d'exemple, on fait un papier dans Le Monde demain. Vous pourrez aller dans Le Monde à tête dimanche, lundi, notre correspondant Eric Albert, qui est notamment collaborateur de Radio France, attendez régulièrement. 274 millions de livres ont été investis pour cette Olympiade. Ils ont quadruplé leurs chiffres depuis Sydney. Et non seulement, alors ça vient de la loterie nationale, cet argent est prêt à la loterie nationale, et ensuite, ils ciblent les sports. C'est-à-dire qu'on disait que nous, les Français, on peut être bon en tir, on peut être bon en aviron, on peut être bon en handball. Les Anglais ont ciblé la 20 disciplines simplement aux Jeux Olympiques de Rio. Et les disciplines, les sports qui ne rapportent pas de médailles, ils n'ont plus de subventions.
Et alors, ce que souligne Stéphane Mandard, est-ce que le fait de mettre le paquet, pour reprendre vos termes, Stéphane Mandard, sur les sports qui rapportent des médailles, sur les sports de haut niveau, c'est aussi sur la formation de haut niveau, pourquoi est-ce qu'en France, on arrive pas encore à concevoir la compétition sportive sous cet angle-là? Pourquoi est-ce qu'on reste encore sur le sport amateur aussi, Marc Lévêque?
Je me souviens bien qu'après les Jeux de Londres, où effectivement le modèle anglais avait porté ses fruits, les pouvoirs publics qui s'occupent de sport en France avait émis cette intention de resserrer, notamment dans un contexte économique difficile, hein, c'est évident. En fait, il semblerait qu'on ne l'ait pas trop fait, l'État, et Marina pourra confirmer ça, l'État n'a pas repris n'a pas abandonné tant de postes de cadre technique qu'il avait l'intention ou émis l'intention de le faire. Et donc on a une configuration en France qui est assez intéressante. Bon, notre système est très original, hein, avec cette espèce de coordination parfois un peu difficile entre jeunesse et sport et le comité national olympique et sportif français, cette forte délégation aux fédérations qui ont une très grande autonomie pour la politique sportive. On a une configuration très originale.
On a un système fédéral à la différence de beaucoup de pays avec un ministère des sports. Un ministère des sports, l'Allemagne n'a pas ministère des sports. Par exemple, le système fédéral, on a un pays jacobin, centralisateur, avec une organisation, une administration puissante. Ce système fédéral fait aussi qu'on a des clubs très puissants, beaucoup de licenciés, à la différence de pays comme l'Angleterre. On parlait de critères, de est-ce qu'on est une grande nation ? L'Angleterre a peut-être beaucoup de titres, beaucoup de podiums, mais à la base, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour les clubs. On parlait de sport santé, il y a beaucoup de... Le taux d'obésité en Angleterre ou aux États-Unis est bien supérieur à celui qu'on peut rencontrer en France. Donc il y a la pratique de masse d'un côté, le sport amateur et le haut niveau. Le modèle fédéral français allie tout ça, arrive à concilier les deux. Je crois que c'est important de le préserver. C'est pas un écueil, c'est pas un obstacle aux performances.
Contrairement à ce que présentait votre collègue au Monde, Thomas Etto, dans une de ses enquêtes sur la formation des sportifs de haut niveau, qui disait qu'on a une manière de former les sportifs qui est qu'on évite toujours de monter sur le podium et qu'on est toujours condamné à la seconde place.
Ça a changé.
Il suffit
d'écouter tous les sportifs de très haut niveau. Alors tous vous diront le déclencheur, l'électrochoc, la prise de conscience, c'est France 98. Voilà. Tony Parker le raconte très bien, Teddy Riner le raconte très bien. C'est ce moment, ce 12 juillet 98, la France gagnait. Voilà, la France gagnait le titre le plus important du sport le plus populaire. Et tous ces sportifs qui étaient jeunes ont découvert qu'on pouvait être français et gagner. Et puis se satisfaire d'une deuxième place, d'une belle deuxième place, d'un beau second rôle.
Alors, je voudrais quand même qu'on fasse une petite parenthèse sur la place des femmes aussi dans cette compétition, dans ces JO de Rio. Parce que, bon, déjà, il y a eu cette victoire de l'équipe, enfin, cette victoire, pas encore, mais cette victoire de l'équipe de handball féminin qui va aller du coup en finale ce week-end. Les femmes qui ont rapporté une dizaine de médailles, quasiment un tiers des médailles que l'on a en notre possession en France aujourd'hui. Et dimanche, la championne du monde de boxe, Estelle Mosley, va disputer le titre de championne olympique. Et si elle l'obtient, ce sera aussi première.
C'est ce soir.
Autant pour moi. Donc si elle l'obtient, ce sera une première dans l'histoire de ces Jeux. Qu'est-ce que ça dit aussi, ça, de l'évolution des esprits chez les entraîneurs, chez les sportifs français, de cette place qui grandit pour les femmes aujourd'hui?
De mon point de vue, les indicateurs sont assez contradictoires. C'est vrai qu'on a un soutien à la pratique féminine qui se confirme. En même temps, par exemple, il y a très peu d'entraîneurs femmes pour les équipes de femmes. Donc on a des indicateurs un peu différents. Et il ne faut pas oublier quand même que de vraies actions ont été entreprises dans le sport français. Je pense à celle de Marie-Georges Buffet avec le réseau Femmes et Sport, qui a été très actif et très intelligemment mené. De manière à promouvoir à la fois la place des sportives, l'ouverture des femmes à des sports supposés virils, mais en même temps l'ouverture pour les femmes à des fonctions d'entraîneur, de dirigeant. Et j'ai noté un indicateur tout récent, pour finir, il y a beaucoup plus de femmes DTN et présidentes de fédération qu'auparavant. Il n'y en avait pas du tout avant. Il y avait une femme qui avait présidé la fédération d'équitation, c'était tout, je crois. Et on a une évolution progressive.
Alors Marina Honta, sur cette question de la place de la femme et sur le fait qu'elles sont certes plus visibles, plus importantes peut-être dans la compétition aujourd'hui, mais que les entraîneuses, ces postes-là ne leur sont pas encore tout à fait ouverts.
Alors c'est une réalité, dans la mesure où les tâches les plus prestigieuses ou les fonctions les plus prestigieuses d'entraîneur national sont d'abord attribuées ou confiées aux hommes. Finalement, nous avons dans le domaine sportif le reflet d'inégalités qui se jouent de manière beaucoup plus générale dans la société, avec des questions de plafond de verre qui s'observent également lorsqu'il s'agit pour une femme d'entraîner à ses fonctions les plus prestigieuses. Je voudrais rajouter aussi sur ces aspects que les résultats des athlètes féminines que l'on observe sont d'autant plus remarquables que les fédérations sportives françaises peinent aujourd'hui à délivrer des licences aux femmes, dans la mesure où les motivations des femmes, dès lors qu'elles font de la pratique sportive, sont plutôt des motivations qui sont tournées vers le loisir, le bien-être, plus que vers la compétition. Si bien que lorsque l'on regarde sur 100 licences qui sont délivrées par les fédérations sportives aujourd'hui en France, il n'y en a pas 40% qui le sont délivrées à des femmes. Donc il y a un problème là pour les fédérations qui consiste aujourd'hui à développer des dispositifs qui soient incitatifs pour pousser les femmes à prendre une licence et bien évidemment au bout du compte, à s'engager dans un système de performance sportive.
Stéphane Mandard, vous vouliez réagir à propos de cette question des licences.
Sur la féminisation du sport de masse, il y a un mouvement quand même qu'on a observé dans le football, qui est quand même le sport qui a le plus de licenciés en France, c'est 2 millions de licenciés, hein, le football tout compris. Il y a de plus en plus de filles, de jeunes filles, hein, qui jouent au football. On a vu que l'équipe de France qui était qualifiée, c'était les Bleus, E-U-E-S. Hein, les Bleus, les garçons, n'étaient pas qualifiés. Alors, elles ne sont pas allées très loin, certes, mais la Coupe du Monde féminine a eu un grand succès, a été pas mal médiatisée, même si ce n'est pas les mêmes audiences que l'Euro de foot masculin. Mais on voit quand même qu'il y a un mouvement qui s'amorce. Il y a une DG à la Fédération française de football qui est une femme, qui a été élue aussi à l'UEFA, c'est une première. Donc il y a quand même des avancées, même si ça peut paraître cosmétique, il y a quand même des avancées notables. Et on voit bien dans les sports collectifs, le handball encore hier soir ou le basket, que les filles derrière, il y a pas mal de jeunes, je pense à la rentrée. Après chaque JO, c'est la même chose. Hein. Tous les 4 ans, les sports qui brillent aux JO, il y a un appel d'air comme ça de licenciés qui viennent taper à la porte des gymnases. Alors souvent, c'est des sports qu'on ne voit pas souvent, hein, comme le judo qui en profite. Donc je pense que là, il y a pas mal de jeunes handballeuses qui vont les s'inscrire à la fédération en septembre.
Marina Antas, est-ce que vous observez à l'université de Staps de Bordeaux que quand il y a une victoire assez notable dans une compétition sportive, dans un sport, il y a plus de personnes qui s'y intéressent, plus de licenciés ?
Oui, les fédérations françaises de judo, de natation, d'escrime, de handball, ces fédérations qui arrivent à gagner des médailles lors de Jeux olympiques d'été notamment, connaissent immédiatement après, cela a été dit, une augmentation des effectifs licenciés. Ce qui peut encore parfois poser problème, c'est que cette augmentation des effectifs licenciés est parfois peu accompagnée par les clubs, parce que les clubs peuvent se retrouver en difficulté parce qu'ils n'auraient pas suffisamment d'encadrement, d'éducateurs sportifs pour pouvoir fidéliser cet afflux de licenciés. Et ces clubs ou ces associations sportives peuvent également rencontrer des difficultés pour se voir accorder par les collectivités territoriales et notamment par les municipalités des créneaux d'installation sportive supplémentaires pour là aussi accueillir cet afflux de licenciés, parce que de très nombreux équipements sportifs en France aujourd'hui sont saturés et occupés très régulièrement dans la journée, et notamment de 17h à 22h lorsque les associations sportives proposent elles-mêmes leur offre. Donc oui, il y a incontestablement une augmentation des effectifs licenciés lorsqu'il y a des victoires sportives, mais la fidélisation de ces nouveaux licenciés demeure parfois problématique.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
La France est-elle encore une grande nation sportive? C'est la question à laquelle on tente de répondre ce soir avec le journaliste au Monde, chef du service des sports Stéphane Mandard, avec le psychologue du sport Marc Lévesque et avec la chercheuse Marina Onta. Vous parliez tout à l'heure, Marina Onta, de fidélisation. Là, on va continuer dans cette direction. On va parler de l'état d'esprit des sportifs français aujourd'hui. Outre le nombre de victoires qu'on a pu observer, de médailles qu'on a pu observer lors de ces JO, il y a aussi des mots qui trahissent un état d'esprit des compétiteurs français. Christophe Lemaître, qui s'est exprimé aujourd'hui sur sa victoire, a parlé de résurrection. Johan Diniz, qui a disputé difficilement, mais qui est allé jusqu'au bout de son 50 km de marche, dit avoir gommé le passé.
C'était un calvaire pour Diniz.
Oui, c'était un calvaire.
Un chemin de croix.
Oui, oui. Mais il est allé jusqu'au bout, et même en s'étant arrêté en cours de route, il est allé jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que ces mots, ce sont des déclarations qui faisaient penser à ce que je citais, aux sportifs que je citais en début d'émission, qui disaient que quand en Russie ou au Japon on parle d'effort, en France on parle plutôt de sacrifice pour mener à une performance sportive. Qu'est-ce que ça traduit, Marc Lévesque?
Écoutez, d'abord, responsabiliser l'athlète et uniquement l'athlète d'une attitude et d'une production de performance, c'est, je crois, une erreur, un biais attributif, un biais personnaliste. L'athlète, en fait, il est celui qui produit l'énergie qui s'accumule au sein d'un système. Ce système, c'est l'institution, c'est l'entraîneur, c'est les supporters, c'est les sponsors. Donc voilà, il faut pas abuser de cette personnalisation de l'échec ou de la réussite. Premier constat. Deuxièmement, il se peut bien qu'il y ait des différences culturelles. Non seulement des différences culturelles par bloc, par zone, c'est clair, mais aussi des différences socio-économiques, par exemple, qui ont un effet sur la motivation à une période donnée. Je vais pas prendre des exemples trop faciles. Les pays de l'Est à une époque où la motivation individuelle coïncidait avec une promotion personnelle et avec la défense d'un système politique. Hein. Bon, donc il faut effectivement relativiser tous ces jugements qu'on peut porter un peu hâtivement à partir d'une déclaration ou d'une attitude d'un athlète. Après, il faut rappeler que le prix de l'excellence, c'est un coût énorme. C'est-à-dire que c'est commencer vers 12 ans, c'est s'entraîner 20-25 heures par semaine, c'est vivre comme un nomade, c'est être coupé de ses attaches, c'est vraiment un labeur énorme. Et dans ces conditions-là, faut essayer, me semble-t-il, de jamais fustiger les faiblesses, mais de reconnaître que c'est difficile d'aller au bout de ce parcours, que c'est une ligne de crête, la haute performance, et que c'est insaisissable. Donc voilà, un certain nombre de points, si vous voulez, qui moi, me font prendre de la distance par rapport à des jugements qui seraient hâtifs sur simplement des déclarations. Pour finir, les entraîneurs français s'occupent de transmettre l'esprit de la gagne. Ils le font à leur façon, c'est-à-dire qu'ils motivent leurs athlètes, bien sûr, mais aussi qu'ils les emmènent dans des confrontations aux quatre coins du monde pour se frotter à l'adversaire. Voilà. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? Il y a peut-être un point, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, sur lequel on pourrait travailler de façon plus qualitative en France. C'est tout ce qui concerne les techniques de préparation mentale, sur lesquelles on n'est pas très en avance.
Stéphane Mandard, sur cette question, ce que disait Marc Lévesque me faisait penser personnellement aux déclarations de Yannick Agnel, le nageur qui a quitté le jeu en disant qu'il y avait un fossé entre le niveau atteint par les nageurs tricolores et la considération qu'on leur portait.
Je reviens un petit peu en arrière, comparaison tout à l'heure avec des champions russes qui diraient...
Oui.
Si un champion russe dit « j'en ai assez de sacrifices », il prend la porte. Voilà, ça il faut le dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un rapport qui s'appelle McLaren qui est sorti juste avant les Jeux, qui a fait état d'un dopage d'État organisé dans le sport russe en général, pas simplement l'athlétisme, qui nous a rappelé que le dopage d'État organisé n'est pas tombé avec la chute du mur. Il a persisté, il a continué. Donc dans un système comme celui-là, quand on dénonce un système, on est au pilori, on prend la porte. Il y a une sportive qui s'appelle Stepanova, hein, qui a dénoncé qu'elle était une lanceuse d'alerte. Et ben, elle n'est pas présente aux Jeux Olympiques. La seule qui a été repêchée, c'est une athlète aux États-Unis. Et on s'est rendu compte a posteriori qu'elle avait aussi des problèmes avec le dopage. Donc oui, le sport de niveau, c'est très, très, très difficile. Ce sont des sacrifices. Il faut appeler un chat. Quand on nage 5 heures par jour, quand on fait 10 bandes par jour, c'est dur, c'est pas humain. C'est pas humain, on peut pas tenir longtemps. Agnelle est très jeune, il en a marre. Manodou a arrêté très tôt.
Oui, voilà, il y a quand même beaucoup de jeunes sportifs, de jeunes espoirs dont on a tous entendu parler, même le public qui ne s'intéresse pas forcément au sport parce qu'on les a portés tellement au nu qu'ils ont dépassé les frontières de la seule notoriété sportive et qui prennent leur retraite au bout de 4 ans, oui. 5 ans. Est-ce que c'est pas une erreur due à une erreur pédagogique dans leur formation sur une mise de pression un peu trop importante?
Si, parce qu'on veut faire des champions. On va revenir encore en arrière. Jeux olympiques de Rome, 1960. Les Français reviennent avec 5 médailles, 0 en or. De Gaulle, colère noire. On a des grands romanciers, on a des grands écrivains, on a des grands musiciens, des grands philosophes. Il nous faut des grands sportifs pour rayonner dans le monde entier. Il faut que notre jeunesse soit fière de ses sportifs. Voilà. Donc on met en place comme ça une stratégie globale, étatique. On crée le CREPS de Font-Romeu. Font-Romeu, c'est en altitude. Les athlètes, notamment, continuent à s'y entraîner. Ils ont fait des stages juste avant les Jeux Olympiques de Rio. Ça s'appelle un centre de recherche et d'expertise de la performance. Mmh. Voilà. On commence à scientificiser, à mettre en adéquation, à mettre en formule mathématique le sport. On va chercher des médecins du sport. Parfois, la frontière du dopage est très poreuse. Donc, les premiers antidopages arrivent aussi en 65. Donc voilà, on met en place toute la machine de l'État pour former des champions, des athlètes, avec un seul objectif, remporter des médailles. Donc évidemment, on ne pense pas aux conséquences, à l'accompagnement psychologique, social, au fait qu'une carrière, c'est très court, et que qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que fait un nageur qui prend sa retraite à 24 ans, mm-hmm. quand il a commencé à nager?
Voilà, il y a le problème de la reconversion, mais dont on va parler dans un instant.
À 4 ans, mm-hmm. qu'il est en sport-études depuis l'âge de 6 ans, qu'il nage tous les jours depuis qu'il est au collège, qu'il n'a pas forcément son bac, donc forcément, c'est compliqué.
Marina Honta, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Est-ce qu'il y a une pression du système étatique de formation des sportifs aujourd'hui?
Une pression étatique, je n'emploierai pas ce mot. Par contre, et Marc Lévesque revenait tout à l'heure sur la spécificité du modèle français d'organisation du sport, et plus précisément du sport de haut niveau, il y a, si spécificité il y a, c'est dans le rôle qui occupe l'État aujourd'hui, en partenariat avec les fédérations sportives. Et on est en présence d'un État français qui va bien au-delà du seul fait d'attribuer des subventions aux fédérations. Stéphane Mandard vient de le rappeler, l'État français labellise des structures de préparation au sport de haut niveau. Et ces structures de préparation, le projet sur lequel reposent ces structures, a largement été amélioré, puisque si c'était la seule performance sportive qui comptait peut-être à l'origine, très rapidement, la question du double projet de l'athlète s'est posé, avec des structures telles que les sections sport-études dans les années 70, avec les centres permanents d'entraînement et de formation ensuite, puis les filières d'accès au haut niveau, pour en arriver aujourd'hui à des parcours d'excellence sportive. Et ce double projet est véritablement une vision du monde imposée par l'État français, qui demande aux fédérations sportives françaises de rendre cette vision du monde opérationnelle, puisqu'à travers les conventions d'objectifs que l'État signe avec ces fédérations sportives françaises, il y a une ligne très précise pour qu'elle prenne en compte la question de la formation et de la reconversion des athlètes. Et il y a également des dispositions pour qu'elles assurent, ces fédérations, la surveillance médicale de ces mêmes athlètes de haut niveau, de manière par ailleurs longitudinale.
Juste sur cette question, Marina Hanta, excusez-moi, je voudrais faire réagir Marc Lévesque d'abord sur la question du double projet, qui est quand même très spécifiquement français. Le fait d'accorder du temps entre le sport et un projet professionnel et ses études, qui est un modèle qu'on retrouve pas partout aux États-Unis, en Italie, en Russie. Même en Italie et en Russie, il y a même un salaire qui est versé à ces jeunes étudiants sportifs pour qu'ils puissent ne se consacrer qu'à leurs études sportives et ne pas penser à autre chose qu'à leur performance. Est-ce que ce modèle de sport-études doit être remis en cause aujourd'hui pour améliorer les performances sportives françaises, ou est-ce qu'on doit justement s'attacher à garder cette spécificité, Marc Lévesque ?
Je vais exprimer un point de vue de psychologue, puisque c'est pour ça que vous m'avez invité. Le maintien de cette exigence au niveau du double projet me semble être tout à fait à l'honneur du sport français. Par ailleurs, malgré cela, mon point de vue de psychologue, c'est que du point de vue des facteurs humains, au sens le plus large possible, l'institution sportive, elle est toujours dans le rattrapage. C'est-à-dire qu'elle a toujours privilégié, mais c'est sa mission finalement, c'est sa fonction, elle a toujours privilégié le projet athlétique. Et secondairement, elle s'aperçoit que se consacrer exclusivement au projet athlétique, ça crée des frustrations, des manques, des déséquilibres qui sont préjudiciables. Et l'institution sportive, peu à peu, s'est occupée du suivi socio-professionnel, commence à s'occuper de la post-carrière. À mon avis, une étape essentielle est encore à atteindre, je tiens à dire ça, c'est que l'institution sportive s'intéresse aux séquelles traumatiques post-carrière, sur lesquelles il y a pour l'instant un couvercle absolu.
Il n'y a rien qui est probablement mis en place.
Et probablement beaucoup de choses à découvrir. Non, absolument pas. Les athlètes vieillissent probablement très mal, avec des problèmes de santé majeurs. Mais on ne s'en préoccupe pas, et les médecins ne s'en préoccupent pas plus que les autres. Mais l'institution sportive, je termine là-dessus, elle a toujours fait preuve de bonne volonté, et par exemple, puisqu'on a évoqué le double projet, elle est allée un peu plus loin ces dernières années avec ce qui s'appelle le projet de vie. C'est-à-dire un accompagnement généralisé qui peut toucher aux histoires de gestion du patrimoine, à l'orientation professionnelle bien sûr, mais aussi éventuellement à la vie privée, à l'organisation de la sphère privée. Et l'intitulé est beau, alors il n'est pas forcément complètement accompli dans la réalité, mais l'institution sportive a codifié un accompagnement qu'elle appelle le projet de vie, pour les athlètes de haut niveau. Et c'est quand même une indication de sa bonne volonté à prendre en compte les facteurs humains.
Stéphane Mandard, vous vouliez réagir sur cette question du double projet.
Du double projet, sur le papier, c'est une belle idée. Hein. C'est l'honneur du sport français. C'est vrai que ça le singularise par rapport à certains pays. Sauf que les États-Unis ont quand même des universités américaines qui sont très puissantes. Oui. Qui aussi a un recrutement qui se fonde aussi sur le recrutement de sportifs, de basketteurs, d'athlètes, qui leur permet de continuer des études, alors plus ou moins bien. Moi-même, j'ai fait un sport-études il y a pas mal de temps, c'est vrai, ça a dû changer. Je peux vous dire que c'est un leurre le sport-études.
Parce en quel
que
sens ?
C'est un leurre parce que oui, vous allez aller en classe, au collège ou au lycée, mais ce qu'on regarde d'abord, c'est vos résultats sportifs. Si vous n'êtes pas bon aux études, c'est pas grave. La sélection se fait sur le terrain de foot, elle se fait pas dans les cartables. Les centres de formation, c'est pareil, les centres de formation. Nous, on avait suivi avec Le Monde pendant 3 ans la classe de Clairefontaine, l'INEF Clairefontaine, qui est vraiment la pépite de la formation française. Les jeunes vont certes au collège, mais c'est très difficile pour eux de suivre, c'est très difficile de passer le bac. Et dès que vous passez dans un club professionnel, donc très tôt, hein, entre 16 et 18 ans, les études, c'est terminé, les études. À l'INSEP, on n'a pas parlé de l'INSEP qui est qui passe pour le joyau de la formation à la française que beaucoup de pays nous envient. On essaie effectivement qu'il y ait un projet pédagogique. Pas mal de sportifs se forment à côté de leur cursus sportif, mais c'est l'exception à la règle. Les champions, les sportifs, qu'ils percent ou qu'ils ne percent pas, qui arrivent à parallèlement à leur carrière sportive, avoir une carrière professionnelle, à préparer déjà l'après. C'est très, très, c'est très compliqué.
Voilà, c'est ce que vous suggérez quand vous parlez de votre propre expérience et des résultats scolaires qui ne comptent pas. En fait, ça rejoint ce que vous disiez, Marc Lévesque, que le projet de reconversion des sportifs et leur accompagnement aujourd'hui est quasiment inexistant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer ?
Il faudrait probablement institutionnaliser la présence de psychologues du sport dans les institutions sportives. Non, mais je le dis sérieusement. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas fonction d'entraîner ou de pousser dans les derniers retranchements de l'effort, mais quelqu'un qui soit attentif aux facteurs humains et qui soit un guide sur les préoccupations personnelles.
Comment ça se fait que dans un pays comme la France, où on dit que le fait que l'on ne met pas assez de pression pour atteindre des performances de haut niveau, et soit en même temps le pays où il n'y a pas de suivi psychologique, c'est quand même assez paradoxal.
On a de fortes résistances à l'égard de l'approche psychologique et de ses avatars, je dirais, c'est-à-dire les techniques de préparation mentale. On a de fortes résistances.
Vous savez, c'est pas propre à la France.
Stéphane Mandat.
L'absence d'accompagnement psychologique, il faut regarder ce que deviennent les champions en Angleterre, aux États-Unis. Il y a beaucoup de mauvais champions qui vieillissent très très mal. Il y a beaucoup de casses psychologiques. Il y a beaucoup de gens qui pètent les plombs littéralement. Il y a beaucoup de cas de suicide, de morts inexpliquées, le recours au dopage entraîne souvent un recours à la drogue, voilà, à des dépendances psychologiques. On n'en parle pas beaucoup, on n'aura pas beaucoup de temps d'en parler ce soir. Mais voilà, c'est pas propre à la France. Hein.
Marina Honta, sur cette question, comment est-ce qu'il faudrait réformer ce système de formation des sportifs pour mieux les accompagner vers une sortie du sport ?
Alors, je nuancerai quelque peu la question de l'utopie.
C'est Vous avez une minute pour le faire.
Oui, c'est peut-être utopique pour des athlètes de haut niveau au sommet de leur carrière et engagés dans le système de la très haute performance. Mais avant d'en arriver là, les listes d'athlètes de haut niveau en France rassemblent 7000 athlètes de haut niveau. Et quand la carrière commence à 12 ans, il y a aujourd'hui de grandes avancées qui ont été faites en termes d'aménagement avec des partenariats avec des collèges, des lycées, des universités pour essayer de cibler au mieux ces aménagements, allonger les cursus, reporter les examens, proposer un tutorat, des cours personnalisés, de la formation à distance. Le système français essaie véritablement, alors bien évidemment c'est largement perfectible, essaie néanmoins d'avancer sur le fait de rendre ce double projet effectif, notamment pour des athlètes de haut niveau qui, bien que sur les listes, ne vivront jamais des revenus de leur sport parce que leur discipline sportive n'est pas médiatisée et ils ne peuvent donc pas en vivre correctement. Donc ces aménagements-là aujourd'hui existent et avancent dans le bon sens. Et
ils sont perfectibles mais avancent dans le bon sens. Merci beaucoup à vous trois, Marc Lévesque, Stéphane Mandard, Marina Honta, d'avoir été en plateau avec nous. Toutes les références, vos bibliographies respectives, des liens pour alimenter ce débat sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été, tout comme cette émission que vous pouvez réécouter et podcaster en attendant lundi. Un grand merci comme toujours à l'indispensable équipe du Grain à Moudre d'été. C'était Chloé Leblond, Philippine Lebray, Meryl Moneghetti et Tanguy Omri. Un immense merci à Milena Elie qui nous a brillamment accompagnés pendant ces deux dernières semaines de réalisation à cette émission. Merci aussi à Meryl Moneghetti qui nous quitte ce soir mais que vous pourrez retrouver, chers auditeurs, dès le 29 août à 5h du matin pour les leçons inaugurales du Collège de France. À la prise de son ce soir, c'était Jean Frédérix. Bon week-end à tous et à lundi.